Alors notre frère n'a pas souhaité, bien que son témoignage soit déjà un message, commenter la parole de Dieu. Alors donc j'ai préparé une suite à son témoignage, puisque il diffuse la parole de Dieu pour la conversion des pécheurs. Et donc suite à la conversion des pécheurs, eh bien ces pécheurs sont conduits au culte, à rendre culte à Dieu. Et donc, je me suis dit que je vais reprendre ce qui, dans l'Écriture, est directement nommé le culte que nous rendons à notre Seigneur lorsque nous avons été sanctifiés par sa grâce. Et donc, j'ai pris la concordance, tout simplement, et j'ai répertorié tous les passages pour être complet, où il est question directement, où il y a le mot culte. Alors, en fait, ils ne sont pas très très nombreux, donc ça va. Je ne vais pas passer encore 1 heure pour le message. Tout simplement, le culte, c'est une action formelle, c'est-à-dire dans des formes, qui appartient d'abord à Israël. Hein, c'est l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Alors bien sûr, le culte du vrai Dieu, cela s'entend, parce qu'il y a d'autres cultes dans le monde, mais le culte du Dieu éternel. Et dans Romains 9, verset 4, eh bien, nous lisons que les Israélites, donc à qui appartiennent l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Donc ce privilège des Israélites d'avoir reçu le culte. Et ce culte, eh bien, l'épître aux Hébreux le reprend et le détaille. Et au chapitre donc 9 de l'épître aux Hébreux, nous lisons que la première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et au sanctuaire terrestre. Au verset 21 encore, donc, il fit pareillement, c'est-à-dire Moïse, l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Déjà là, nous voyons que le culte est associé au tabernacle. Il a fallu le tabernacle pour que le culte puisse se mettre en place. Et donc, il y avait voilà, un tabernacle et des ustensiles pour le culte. Donc, en fait, tout cela est détaillé dans ce chapitre 9 et plusieurs autres chapitres de l'Épître aux Hébreux. Mais ce chapitre établit aussi que ce culte n'était pas parfait, ou dit autrement, ne rendait pas parfait. Au verset 9, c'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte. Donc il y avait quelque chose, on peut dire, d'inachevé dans ce culte terrestre. Et pour que les choses soient rendues parfaites, eh bien, il a fallu qu'il paraisse un sacrificateur particulier, capable en fait d'ouvrir l'espace qui sépare la réalité terrestre de la réalité céleste. C'est ce que le chapitre 8 a mis en évidence, les versets 1 à 6. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices. Il est donc nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque ceux-là sont ceux qui présentent les offrandes selon la loi. Ils célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, comme Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de tout faire d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc Jésus, en venant sur la terre, pour accomplir son propre sacrifice, un sacrifice qui plaît à Dieu, a ouvert cet espace. Il a créé une route qui va jusqu'au lieu céleste, là où le culte est rendu à Dieu, dans les cieux. Chapitre 10, versets 19 à 22. Ainsi donc, frères, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Jésus donc est cette route vivante qui nous permet d'arriver dans le sanctuaire céleste, dans la présence de Dieu, là où Dieu est adoré et glorifié. Il est aussi appelé d'ailleurs par anticipation, donc par Jacob, la porte des cieux. Lorsque Jacob a eu sa vision de l'échelle qui permettait aux anges de descendre et de monter jusqu'au ciel, de descendre du ciel sur la terre et de monter de la terre jusqu'au ciel, en se réveillant, il a dit « C'est ici la porte des cieux. » La porte des cieux. Et nous avons aussi une porte intérieure à ouvrir. Et à ce moment-là, nous permettons à l'Esprit Saint de pénétrer dans nos cœurs. Et alors, on peut dire que l'intime, ce qui est plus profond de nous, eh bien, se retrouve en contact avec l'être infini, le « Je suis éternel ». Et là, nous devenons nous-mêmes le temple de Dieu. C'est cela toute la réalité qui est enseignée par les apôtres et l'Esprit de Jésus-Christ. La communion entre l'homme intérieur qui a été créé pour Dieu et le Dieu éternel et infini, grâce au sacrifice de Jésus-Christ, grâce à son incarnation et au fait que, venant dans ce corps, il l'a offert en sacrifice expiatoire pour le péché de l'humanité. Et c'est là que tout est rendu possible. Le culte véritable devient possible. Il s'agit maintenant pour le croyant d'être au ciel et de rendre gloire à Dieu. Son culte ne peut pas être charnel, il est spirituel. Philippiens chapitre 3, verset 3, l'apôtre Paul dit de cette parole: les circoncis, toujours rapport donc aux Israélites, les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Nous rendons à Dieu un culte par l'Esprit de Dieu. C'est l'adoration en esprit et en vérité dont Jésus avait entretenu la Samaritaine, hein, au chapitre 4 de l'Évangile selon Jean. Eh bien, nous voyons cette femme qui avait vraiment soif de la véritable vie, de la véritable révélation. Et donc tout cet entretien entre Jésus et cette femme samaritaine, où il l'amène à cela, à partir du verset 22 de ce chapitre, non 21. « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. » La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Donc, un culte nouveau, un culte véritable, rendu par l'Esprit de Dieu, par des âmes qui ont été sanctifiées par le sacrifice de Jésus, qui l'ont reçu, qui se l'ont approprié, qui ont ouvert leur cœur à la présence divine, et qui maintenant sont auprès de Dieu en esprit, avec Jésus, et les anges qui rendent gloire au Créateur. Alors de là, eh bien, la parole de Dieu nous fait prendre en compte que ce culte nouveau, dans l'esprit et par l'esprit, nous le rendons dans un corps et une âme encore marqués par le péché. Par conséquent, ce corps et cette âme, eh bien, nous sommes amenés à les soumettre humblement à Dieu. L'apôtre Paul dit même qu'il tient son corps assujetti. Et ce qui est différent de ce que certains prônaient à l'époque et prônent toujours aujourd'hui, qui s'appelle l'ascétisme, dans Colossiens 2, versets 20 à 23, l'apôtre fait bien la part des choses. Il dit, si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impostons ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc il ne s'agit pas pour le chrétien de pratiquer un ascétisme qui lui permettrait d'être davantage encore spirituel. Ce n'est pas cela dont il s'agit. Mais les autres passages quand même montrent bien qu'il y a une véritable discipline, on peut dire de l'âme et corporelle, pour pouvoir justement être dans les bonnes conditions pour rendre ce culte spirituel à Dieu. Et toujours l'Épître aux Hébreux, eh bien, elle l'exprime en ces termes, chapitre 12, verset 28. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc cette notion de piété, de vie dans la méditation, la prière, la recherche de Dieu et la crainte de s'égarer, de s'éloigner de lui. Romains chapitre 12 verset 1 et 2. Où il est question aussi de la transformation des pensées. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Certains qui ne connaissent pas ce culte par Jésus-Christ, eh bien, vont jusqu'à prétendre à honorer et glorifier Dieu en privant les disciples du Seigneur même de leur vie. Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 16, verset 2, enfin il prophétise, il annonce ce qui s'est vérifié tout au long des siècles. Donc voici, l'heure vient, dit Jésus, où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Comment donc certains peuvent prétendre être dans un culte rendu à Dieu, mais s'ils le font en dehors de cette connaissance de Jésus-Christ, eh bien en fait ils sont totalement égarés au point de persécuter les disciples du Seigneur. Voilà toutes les références au culte directement. Il y a d'autres, bien sûr, mais où le mot culte apparaît. Eh bien, ce culte, frères et sœurs, il est rendu par chacun d'entre vous tous les jours de votre vie, si, comme le Seigneur vous le demande, vous avez ouvert la porte de votre cœur pour que le Saint-Esprit puisse venir appliquer le sang de Jésus, la purification, et vous mettre en relation avec le Dieu éternel. Eh bien, c'est une réalité pour chacun d'entre vous, et tous les jours. Et puis une fois la semaine, eh bien ce culte, nous le rendons en commun, tout simplement. Donc on appelle ce rassemblement un culte, parce que ce n'est pas qu'il n'y ait que ce moment où nous sommes dans le culte. Tous les jours, chacun d'entre nous, dans nos familles, dans notre vie personnelle, nous rendons ce culte à Dieu. Dès l'instant où nous nous mettons en prière, dès l'instant où nous méditons, dès l'instant où nous confessons le nom du Seigneur, dès l'instant où nous rendons un service dans la foi et pour la gloire de Dieu, nous sommes dans le culte. Mais une fois la semaine, nous le rendons en commun. Et puis, pendant la semaine aussi, nous veillons ensemble, par la prière, par l'étude de la parole, par le secours, par le témoignage, à ce que ce culte spirituel reste rendu dans les bonnes conditions morales et même physiques par les enfants de Dieu. Et nous sommes donc dans une discipline en quelque sorte d'église, comme dans une discipline personnelle, au service du culte. Et nous essayons de nous organiser ensemble pour que ce culte en commun soit rendu de la meilleure façon, comme nous essayons dans notre vie personnelle de nous discipliner pour continuer à adorer le Seigneur dans un corps sanctifié, dans des pensées renouvelées. Et tout cela, donc, c'est l'objet, le travail de l'âme, du croyant, du disciple de Jésus. Donc, que le nom du Seigneur soit béni d'abord parce qu'il nous a ouvert cette porte des cieux, il nous a tracé cette route, parce qu'il nous a libérés du péché qui faisait obstacle à cette communion avec Dieu. Et puis, que nos vies soient de plus en plus sanctifiées pour pouvoir justement être libres pour le culte spirituel. Amen.